When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Ah, tu vois.
Quand tu dis que t'as changé, ça veut dire quoi?
Bah, j'ai changé en termes de la manière dont je veux. Enfin, même dans le spectacle, tu vois, je sais plus le même spectacle, je suis plus le petit gars un peu frêle qui parlait très vite, qui fait. Et du coup, ça aussi, c'est une autre identité à. Les réalisateurs et les actrices, c'est pas qu'ils ont pas d'imagination, mais c'est qu'ils vont prendre un rôle pour lequel tu corresponds. Ils vont pas se dire, ah, je vais l'emmener là-bas et tout, sauf si t'es très connu. Et du coup, et puis on va pas se mentir, j'ai pris des muscles aussi, voilà.
Oui, on va en parler.
T'as poussé. J'ai poussé à la fonte.
Exécuté par
qui?
Fabrice Florent.
Bonjour, bonsoir, bon après-midi à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Histoire de succès. Un jeudi sur deux, à partir de 6h du matin, je retrace avec une ou un invité son parcours de vie qui l'a amené à son succès depuis la petite enfance jusqu'à aujourd'hui. Alors je suis Fabrice Florent et mon métier c'est de faire parler les gens. Je fais parler de mes invités, de leur intime, parce que je suis convaincu que l'intime est bien plus universel qu'on ne le pense. Vous verrez, vous vous reconnaîtrez peut-être dans les histoires des gens qui parlent dans mon micro alors qu'ils racontent leur histoire. Je fais donc parler des gens, plutôt dans des podcasts de conversation sur divers sujets. Des pères de paternité, des mères de maternité, des célébrités de leur parcours vers le succès, des hommes de masculinité et aussi, bien sûr, des gens de leur rapport à l'argent. Je fais aussi un talk show avec ma partenaire Mimi Hegel qui s'appelle le Fab et Mimi Show. Bref, vous retrouverez tous les liens dans les notes de cet épisode si vous voulez découvrir ces autres podcasts. Et d'ailleurs, si vous découvrez mes podcasts, je fais pas mal d'autres choses. Allez donc voir ça sur mon site internet fabflorent.com, fabflorent.com. Si mes podcasts et mon travail vous aident d'une manière ou d'une autre, alors vous pouvez m'aider en retour en m'envoyant un don en argent sonnant et trébuchant avec votre carte bleue ou alors en vous abonnant à mon Patreon à partir de 5€ par mois. Vous trouverez les liens dans les notes de cet épisode, merci d'avance, c'est très cool. Enfin, si vous aimez le podcast, vous pouvez vous y abonner, mettre un chouette commentaire et 5 étoiles au podcast sur votre appli de podcast préféré, en particulier si vous écoutez sur Apple Podcasts ou Spotify. Et surtout, partagez cet épisode et ce podcast autour de vous s'il vous a plu. Je suis sûr que vous connaissez c'est des gens que mon travail pourrait intéresser. Vous pourrez également venir commenter avec mes auditrices et mes auditeurs chaque épisode directement sur mon Discord. Je vous invite à aller découvrir Discord, c'est un petit logiciel génial qu'il faut installer sur son téléphone ou sur votre ordinateur. En fait, vous pouvez me suivre sur les différentes plateformes et réseaux sociaux et trouver toutes les infos pour me contacter dans les notes de cet épisode. Merci d'avance et bonne écoute.
Tu te souviens que, enfin, je sais pas si t'as réécouté ce qu'on a fait il y a un an et demi.
Non.
Dans le premier épisode, j'ai écouté ce matin, je me suis dit c'est incroyable, on commence à parler de jeux de société.
Ah oui?
Pendant 10 minutes, on parle de jeux de société.
Et bah, tu te rends. Ouais.
C'est fou, non?
Surtout quand t'as vu le spectacle, t'as compris à quel point c'était important.
C'est un truc chez toi où tu dis, ouais, pour moi, c'est important le jeu et tout, j'adore. Et genre, on parle du fait des gens qui trichent, etc. Voilà, quoi.
C'est bien, je suis à peu près la même personne que.
Tu n'as pas changé.
Ça fait plaisir. Alex, en tout cas, bienvenue, ouais.
Non, bah, bienvenue.
Je t'ai coupé ton intro, pardon. Vas-y.
Non, tu voulais me dire.
J'avais envie de prendre les rênes de ce podcast.
On peut faire ça.
Fabrice, je suis hyper content que tu sois là.
Bah, merci beaucoup de me recevoir, c'est sympa.
Ça fait hyper plaisir. Alors, tu sais peut-être pas, tu connais le concept ou pas, mais.
Non, je connais pas.
À chaque confidence, on rajoute un vêtement. Et quand on peut plus parler parce qu'on est enseveli, là, on s'arrête.
On s'arrête, sinon il y a décès de l'invité.
Exactement.
Ça n'est pas compatible avec tout ce qui est podcastique. Oh, combien d'invités t'as tué cette saison?
Bah écoute, 25.
Ils font parler comme ça dans des écharpes et tout. On dit c'est vrai, comme mon père m'a jamais vraiment dit je t'aime.
Pardon.
Bienvenue, en tout cas.
Merci beaucoup.
Je suis très heureux de te recevoir. Alex, on s'était reçu, donc on s'était reçu. On s'était eu il y a un an et demi.
On s'était eu, si tu veux.
On s'était parlé un an et demi, la dernière fois dans ce micro
il y a un an et demi,
septembre 2022, où tu étais en train de terminer de jouer pour la toute dernière fois ton premier spectacle, en fait,
c'est
fondamentalement,
clair.
Sensiblement viril.
Ouais, c'est clair, c'était avant la dernière au Casino de Paris. Ouais.
Fou,
mais
hein.
Je réalise pas, je parle un peu bizarre, parce que quand tu m'as rappelé ça, j'étais là, je pensais qu'on s'était vu il y a 3 mois, tu vois.
Le temps a passé à ce point-là vite pour toi?
Bah ouais, en fait vraiment l'année où j'ai écrit le spectacle, où j'ai terminé Sensiblement Viril, j'étais déjà en train d'écrire le prochain, celui-ci en fait, Panache,
oui.
Actuellement à la Comédie de Paris.
Tout à fait, et bientôt en tournée.
Oui, et du coup je me suis pas rendu compte, mais oui en fait c'est passé hyper vite. parce que j'étais aussi en train de changer de production, donc j'attendais des réponses, des rendez-vous, je faisais des résidences tous les deux mois, et en fait finalement le spectacle avançait, et j'avais des deadlines après.
T'écrivais déjà alors que t'étais en train de terminer ton spectacle?
Ouais, parce qu'il me restait quelques dates, et l'été d'avant, donc l'été 2023, non.
2020, bah sans doute c'était 2022 alors.
On est en 2024?
Oui.
Et bah c'est ça. Juste. Si.
C'était l'été d'avant alors?
Non, juste août avant la dernière, donc août.
2022.
On est en 2024,
mais c'est un autre. Le temps
ouais,
passe
vite,
je te crois.
J'ai pas envie, c'est très long. Tu sais que je déteste ces personnes-là qui font ça. Je suis désolé pour les gens qui écoutent.
Que t'es sûr?
Quand tu fais, ouais, tu sais, attends, donc tu vois, t'as envie de raconter une histoire, tu dis, tu vois, elle était déguisée. Attends, je te dis une connerie, c'était en 2000. Si, parce que la petite avait eu un problème dedans, Non, alors non, c'était. Et t'as envie de dire, mais accouche! Et je viens de faire ça. Je m'excuse. Tu as raison, quoi qu'il. Voilà. Bon, en tout cas, l'été d'avant ma dernière, j'écrivais déjà, j'étais déjà parti en résidence pour écrire, mais. En fait, j'adore commencer à écrire et à en mettre de partout, c'est-à-dire écrire n'importe quoi. Et après, laisser ça au Alex de 3 mois plus tard qui reprend les notes et qui fait... Enfin, je m'arrête pas pendant 3 mois, mais vraiment, quand je retourne en résidence, et qui fait « Mais attends, c'est quoi ?» Ou alors « Ah, ça parle beaucoup de ça. »
Oui, parce que t'étais déjà en train de parler de... Enfin, tu m'avais dit que tu mettrais des persos dans ton nouveau spectacle,
je
notamment.
Je t'ai pas menti.
Des persos d'Instagram.
Il y a du personnage. Il y en a un peu plus, je laisse, quoi.
Et tu parles notamment de ce présentateur de théâtre associatif où tu dis « J'adore ce personnage, mais je sais pas trop comment le placer. » Parce qu'au départ, tu voulais commencer le spectacle avec ce personnage. Parce que donc, pour les gens qui n'ont pas encore vu ce spectacle, tu as effectivement ce personnage...
Étienne Risson. Directeur du Centre culturel Simon Perchoir. Et Étienne Risson, je l'ai créé dans les professions sur YouTube, profession directeur du Centre culturel, et après quelques vidéos Insta. Et ouais, j'avais et c'est marrant parce que finalement, c'est là où il est le mieux, c'est sur scène.
Ah non, mais c'est incroyable.
C'est sans fausse modestie, mais vraiment, ce sketch, il cartonne vraiment chaque fois.
Mais j'ai failli mourir. C'est-à-dire que ça fait partie des moments où je n'arrivais plus à respirer. Et tu sais, quand t'as les zygomatiques là, qui font mal, t'en peux plus, t'es là, faut arrêter.
Je suis ravi d'avoir pu provoquer ça.
Tu sais, faut vraiment. Comment
les
tu
masser
fais, comment tu fais pour les détendre parce que ça fait mal? C'est un moment de gêne. Et de. C'est long. C'est long, mais c'est
bien
bon.
Envie.
Tu vois, c'est vraiment. Non, mais ça donne. Franchement, moi, je trouve que c'est. T'as raison, c'est à ce moment-là que. Le personnage est le meilleur sur scène, c'est-à-dire que je vais pas spoiler, mais en gros, disons
bon,
que
tu peux.
La mise,
c'est un directeur
mec,
de centre culturel.
Le mec met du temps, à trouver un petit, voilà.
C'est bien présenter des spectacles et comme tous les directeurs de centre culturel, et il passe des plombes, il parle pas dans le micro, il se plante tout ça, et après je vous en dis pas plus, mais il y a pas des grosses infos, mais l'idée c'est ça, c'est de jouer sur ces personnages. Finalement, on les connaît tous, et moi je pensais que ce sketch allait vraiment parler aux gens qui vont souvent au théâtre, souvent dans les centres culturels subventionnés, tout ça. Et en fait, pas du tout. On a toujours eu
universel.
Un mec avec un micro qui sait pas le gérer, que ce soit un chef de réunion, tout ça. Et du coup, je suis hyper content.
Ouais. Dans un mariage.
Dans un mariage, ouais, ça prend des plombs, ça parle pas dans le micro. Et lui, il ressort aussi beaucoup parce que c'est le plus éloigné de moi. Il a une autre rythmique, il est pas dans la lumière, il est pas dans les bons temps, c'est que des faux temps et il a presque aucune mimique aussi. Moi, je sais que je suis assez expressif du visage. Et là, lui, il est vraiment très interne, mi-timide, mi-relou. C'est très étrange.
Je rigole, rien que d'y repenser.
Je vais le jouer ce soir, là. Après, je vais aller le jouer. Je suis content de le retrouver.
C'est incroyable. En tout cas, bravo d'avoir. C'est très marrant que t'aies réussi, je trouve, peut-être que les gens qui t'ont jamais vu sur scène t'ont découvert sur les réseaux sociaux, ou t'as inventé plein de personnages, à la fois sur YouTube, sur Insta, etc., où tu les joues. Et en fait, je trouve ça assez cool la façon dont t'as réussi à les mettre sur scène et à les intégrer de façon hyper fluide, en fait, fondamentalement.
Il fallait. Ça a été un vrai défi, challenge. Non mais j'étais à ça de faire un documentaire Amazon en disant on va jamais y arriver, puis après on y arrive l'épisode d'après. Mais non, en fait en vrai c'est j'en ai parlé, c'est marrant, j'en ai parlé
à... J'ai une anecdote à ce propos.
Ah ouais.
Des coulisses, oui, on va en parler après.
J'en ai parlé à Laura Felpin qui m'a dit ah tu vois moi je voulais faire la prof d'allemand dans une vidéo où elle fait une prof d'allemand sur scène et ça marchait pas et ils passent pas tous l'exercice de la scène et en fait il y a le personnage du médium Jean-Yves Sirot qui lui a mis longtemps à se trouver et qui encore des fois passe à côté enfin il passe pas à côté mais en tout cas les gens sont quoi qu'est-ce qu'on regarde là parce qu'il est très spécial et lui il a mis tout le rodage on l'a vraiment changé entièrement au début il matchait vraiment pas et là maintenant il marche mais il est vraiment dans son absurdité quoi.
Et tu parles de lui comme si c'était une personne à part entière.
Ouais, il existe en toi.
Jean-Yves Sirot, quoi, oui. Mais bien sûr.
C'est reparti. Et...
si, fais-le-moi.
Bonjour, je suis... Écoutez, là, pour l'été, moi, je vous conseille de vous entourer de pierres. Mais alors, allez pas m'emboucaner avec les pierres de sulfite et autres polystyrènes expansés. Vous prenez un bon caillou de votre cour intérieur, vous frottez, vous mettez à la lumière de la lune, et puis vous, voilà, vous priez un peu, et puis ça va aller. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? De toute façon, si vous êtes malade, c'est Doliprane, hein, c'est pas une pierre. Hein. Et du coup, pour moi, il en a encore sous le capot, peut-être sur scène ou peut-être en vidéo. Lui, il est vraiment vidéo. Sur scène, à un moment, il était trop violent, parce qu'il voilà, il est quand même violent, il parle mal aux gens. Alors que l'influenceur, Antonice, je lui ai vraiment créé un truc où il a été élu président de la République.
C'est incroyable.
Donc, voilà, il fallait un truc en plus. Je pouvais pas juste faire... Et le directeur du centre culturel, finalement, son décorum, son état...
Ça marche trop bien.
Son habitat naturel, finalement, c'est quoi ? C'est la scène, parce qu'il est tout le temps sur une scène. Donc en fait, c'est peut-être là où j'aurais dû le faire en premier, quoi, au final. Mais finalement, tu vois, je l'ai créé en vidéo parce que il me faisait rire que moi. Et en fait, je me suis rendu compte que souvent, quand ça te fait rire toi, ça fait rire vraiment les gens qui te ressemblent.
C'est universel, hein, finalement. Tu sais,
mais ouais, c'est ça. Moi, tu sais, t'as toujours un moment où tu dis non, mais moi, ça fait rire que moi, j'ai un humour spécial. Mais d'où, si toi, ça te fait rire, ça fait rire d'autres personnes, c'est évident, quoi.
Il y a une forme d'inconscient collectif,
oui,
je crois, autour de ton personnage de meuf divorcée aussi. C'est incroyable.
Carole. Eh ben elle n'existait pas, tu vois, je l'ai créée pour le spectacle. Ouais. Carole, ouais, bah ça va, écoute, moi je suis dingue, alors on boit pas un petit coup là ou quoi là ? Carole, elle est très enjouée. Ouais, elle est très enjouée.
Mojito, je veux même pas.
Elle change, ça dépend des soirs, je sais pas quelle soirée t'es venue, parce que des fois elle dit Mojito, des fois elle dit Mojito.
Non, Mojito, bien sûr, c'est
elle
bien
est un
plus
drôle. Carole, c'est la, pour moi c'est l'élan de vie qu'on a tous un peu en nous, des fois où on est très gênant en soirée, on va faire des histoires, genre il s'est passé un truc dingue alors que t'as juste renversé un verre, c'est hyper délire, on racontera ça au bureau la semaine prochaine et tout. Et finalement, c'est celle de mon spectacle qui finalement se raconte le moins d'histoires, j'ai envie de dire. Tous, ils sont un peu dans le déni, ils sont un peu dans le panache, c'est un peu ça, enfin c'est un peu ça, ouais. Ils sont un peu dans la représentation, elle est dans la représentation, évidemment, finalement c'est celle qui a presque le plus de panache dans mon spectacle, je trouve. C'est celle qui est le moins en... qui se ment le moins à elle-même, je dirais.
C'est d'ailleurs, tu commences le spectacle comme ça. Tu t'expliques que pour genre fake it until you make it,
ouais,
il faut que tu défiles.
Il faut défiler. Ça, c'est défiler. Mon remède.
C'est un remède premier degré, je crois.
Ouais, un peu.
Dans ta vie, en vrai.
Ouais, ouais, ouais. Je te dirais pas que. Mais en fait, je l'essaye de l'adopter de plus en plus. Ouais, de toute façon, on aura toujours des moments, des situations gênantes. On aura toujours des moments où la dignité a décidé de prendre son RTT. Et si on peut juste relever la tête, bomber le torse et avancer comme ça, fier et digne, je trouve ça drôle. Et en même temps, c'est un petit remède. Moi, je fake it until je still fake it, quoi. Mais.
Ah, tu continues à faker?
Mais parce que je crois que les gens, même.
Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
C'était qui ? C'était Rihanna qui disait fake it until it's happened, mais vraiment, je crois que même les gens comme ça, ils continuent de fake. Enfin, tu peux pas tout le temps être en confiance, je sais pas. Ou alors, au bout d'un moment, t'as un cercle de personnes qui sont assez tributaires de ton travail, ou tu sais, qui sont là, qui sont fans, qui te couvrent de laurier pour te dire ok, je suis génial, et finalement, t'as plus à remettre ça en question, mais sinon. Enfin, je sais pas, ouais.
Ah bon, c'est ton deuxième spectacle, t'as quand même l'impression d'avoir acquis depuis tout ce temps. Une forme de confiance sur scène où t'arrives et tu sais à peu près ce que tu délivres, non ?
Ah ouais, alors sur scène, oui. Sur scène, oui, même si ça prend son temps.
Tu parlais de la vie, là, c'est ça ?
Je parlais de la vie et oui, non, sur scène, je vais pas perdre mes moyens. En fait, vraiment, c'est pour ça que c'est assez paradoxal de dire « j'ai pas trop confiance en moi ». Mec, t'es sur scène devant des gens qui sont assis dans le noir, ils te regardent, t'arrives en défilant. Mais c'est un peu cette idée où je me dis, j'essaye de trouver peut-être pour dans la vie, justement, de trouver le bon degré. Je trouve que avoir confiance, ça t'aide à ouvrir tellement de portes. Et pour moi, chaque étape de ma carrière est une épreuve, quoi, dans le bon sens, quoi.
Ouais.
Et je trouve que pour les étapes d'après, il y a faut s'y croire un peu, quoi. Tout en devenant pas un connard.
Ouais, mais t'as l'impression d'avoir un masque sur scène, parce que j'ai l'impression que c'est vachement toi, en fait.
Ah ouais, non, aucun masque sur scène, surtout avec ce spectacle.
Ouais. C'est toi, quoi.
Ouais, je parle vraiment de... Et c'était même la recherche à des moments, comme c'est quand même du texte.
Oui.
Ça a été vraiment d'enlever... Au début, j'avais fait un truc très écrit. Et puis, très écrit veut pas dire pas naturel, mais il fallait le rendre très naturel. Mmh. Et en même temps, j'ai pas... Je me suis rendu compte, quand je m'exprimais, je fais pas non plus... Si, je fais des phrases à rallonge, mais j'utilise pas non plus un vocabulaire hyper littéraire ou hyper soutenu, je dirais. Donc c'était un peu le, j'avais envie que ce soit très bien écrit et en même temps que ce soit très accessible, comme si je te racontais un truc. Et on m'a dit plusieurs fois que quand on sort de spectacle, on a envie d'être mon pote, dans le sens où il y a une, pas parce que je suis particulièrement brillant ou quoi, mais il y a un côté un peu, un pacte un peu de sincérité qui se fait, quoi.
Ouais. T'as l'impression d'avoir gagné en sincérité entre le premier où c'était un peu ton, je trouvais où tu jouais beaucoup pour le coup,
ouais,
t'avais
vrai.
Un vrai rôle sur scène, où là j'ai l'impression que en dehors de tes personnages dont on parle, mais pour le coup c'est vraiment tes personnages, sinon j'ai l'impression que quand tu parles toi, t'es vraiment toi, quoi.
Bah ça c'est avec le recul, quand j'ai revu l'ancien spectacle où il y avait plus de voix, il y avait plus de où tu te caches un peu derrière des trucs et tout, et en fait ouais, là je me suis rendu compte il n'y avait pas du tout.
Non.
Tous les moments stand-up j'étais vraiment, soit t'avais des vrais personnages qui font leur irruption, ou soit vraiment je te parle parce que j'ai envie de te parler, quoi.
Normal.
Ouais, normal.
Comment c'était venu, tu crois?
Bah là vraiment en travaillant, enfin en travaillant et en l'expérience, quoi.
Ouais.
Pas le fait de travailler chez moi dans ma chambre, mais le fait de faire, de faire, de faire. Et aussi je pense que, comme c'est mon vrai deuxième spectacle, l'idée ça a été vraiment de mettre tout ce que j'avais envie de faire et de piocher dans tous les spectacles que j'admirais, plutôt, enfin j'admirais leur liberté, en fait. C'est pas de piocher des sketchs, hein, ça s'appelle du plagiat.
Copie comique.
En fait tu remarques, voilà, tu remarques, tu peux trouver tout. Non, mais dans tous les spectacles que j'aimais, qui dégageaient une certaine forme de liberté dans la forme, c'est-à-dire on fait des personnages, finalement on fait du stand-up, on fait un peu de seul en scène, à un moment ce sera pas drôle, tout ça. Je me suis dit en fait, ok, je vais faire ce que je veux, maintenant j'ai assez confiance en moi pour le coup, mais pas totalement, donc vas-y, on va parler de ça, pour vraiment mettre tout ce que j'ai envie dedans. Okay. Et c'était quoi le début de ta question?
Bah, ce que t'avais, comment t'en étais arrivé là?
Ah,
c'était quoi le chemin en fait?
Bah, c'est ça. Ça a été, et surtout, c'est le vrai, tu te rends compte que ce spectacle, en fait, Sensiblement Viril, j'avais, y avait des sketchs qui dataient de mon spectacle d'avant, qui avaient été coécrits du coup par mon ancien metteur en scène de l'époque. Et en fait, du coup, il y avait quand même des parties où finalement, j'avais pas été totalement maître de ce que je voulais, mais pas parce que je l'avais subi, mais parce que plutôt, je me sentais pas assez légitime pour dire non, mais ça j'aime bien, ça j'aime pas, ok, c'est ça la recette. Alors qu'en vrai, en sketch, oui, il faut avoir une recette, mais bon, en vrai, tu fais un peu ce que tu veux. Et du coup, donc c'est drôle. Et du coup, là, c'est le vrai spectacle où finalement, j'ai écrit du début à la fin, tout seul. J'en ai parlé à ma metteuse en scène qui, elle, aime la personne que je suis sans dire « Ah, fais comme ci, fais comme ça. » Et en vrai, c'est mon vrai premier au final.
Ah ouais, t'as vraiment cette sensation-là?
Bah ouais. Mais parce que j'avais pas assez de...
maturité.
Ouais,
quoi.
C'est ça, même de confiance pour dire « En fait, je veux faire ce style, je veux faire ça. » Puis j'ai l'impression que jusqu'à tant que je ferai des spectacles, j'aurais toujours l'impression que c'est mon vrai premier parce que... Ouais, peut-être pas. Mais là il y a vraiment... Enfin, c'est le premier spectacle que j'ai totalement écrit du début à la fin, seul.
Ouais. Là où tu veux dire que peut-être avant, ton metteur en scène cherchait plutôt à te faire rentrer dans un moule, c'est ça?
Ouais.
Sans que ce soit péjoratif.
Sans que ce soit péjoratif, mais plutôt sur des recettes, tu vois. Ouais. Genre, bah non, un sketch, il était un peu plus vieille école, même si ça marchait, tu vois. Donc, il y a le sketch des jeunes parents qui a hyper bien marché sur mon... Et que j'adorais jouer, hein. Mais il y avait du coup plus une recette. Et là, en fait, je me suis dit, je vais faire ce que je veux. J'ai acquis, justement, de l'expérience et aussi du savoir par cette personne aussi, quoi, qui me disait... Tu vois, un sketch, bah tu commences un peu par le sujet quand même, enfin le sujet principal, des trucs comme ça, tu vois. Mais après ça a été intégré, digéré, ça a été infusé. Et du coup, là voilà, fort de tout ça, j'ai dit maintenant je vais faire comme j'ai envie et il y aura de l'absurde et des fois il n'y en aura pas et puis il y aura ça et je vais mettre tout ce qui me fait rire et on verra.
Ok. Et c'est le spectacle de la maturité finalement.
Et non, c'est le spectacle de la liberté. Et là, c'est mes éléments de langage à chaque interview.
Mind drop.
Mes éléments de langage, putain, t'as vraiment parlé comme Macron, quoi.
Ouais. Bah, je trouve que c'est vraiment ça. À partir du moment où je répète trois fois la même idée parce que je la trouve cool dans trois ITV.
Ouais, c'est vrai.
Je dis ITV, t'as vu? Je me dis, bah, j'appelle ça des éléments de langage. Je me dis, mais tiens, change de disque. Et en même temps, les gens ont besoin de ça. Enfin, c'est la même recette du truc, quoi. Non
oui, c'est ça. Après, moi, souvent, je me dis, c'est que je suis pas très bon en interview si je te fais redire les mêmes trucs.
Ah non, mais non, t'as dit.
C'est le moment de poster, de parler d'un moment. Toi et moi qu'on a vécu où on s'est retrouvés dans le métro complètement par hasard l'un en face de l'autre où tu sortais
J'adore quand tu passes de,
ouais, de la mise en scène. C'était quoi? C'était la mise en place de ta scène.
Ah,
tu
oui,
te souviens?
J'étais explosé.
T'étais au bout du rôle, mon vieux. J'étais, et t'étais en train de créer le spectacle, en fait, tout simplement.
On avait fait, ouais, c'était une journée entière. On avait fait du, bah, la mise en place technique.
Ouais.
Donc c'était
les lumières,
le jeu à cet endroit-là, le machin. Ça va pas marcher. Et surtout, je venais de recevoir les costumes parce que j'ai des costumes au début du spectacle.
C'est incroyable.
Oh, merde,
c'est, je crois qu'il faut juste. Enfin, faut rien dire d'autre que c'est incroyable.
C'est très discret. C'est des costumes très sobres, très discrets, très, très ternes, même en couleur. Hein. Il n'y a rien, c'est quasi du noir et blanc.
Mais c'est on va en parler, ces costumes sont incroyables.
Et du coup, il y avait tout ça et j'étais dans un stress dingue parce que je me suis dit, l'intro, je vais pas avoir le temps de me changer parce qu'il y a des reveals, il y a des changements. Mmh. Et je me suis dit, ça va pas être possible, c'est trop petit en coulisses et j'avais passé ma journée à me changer, à enlever, à remettre. Qu'est-ce que je suis content maintenant de me dire que c'est simple alors qu'au début c'était des épreuves quoi. Parce que tout ce qui était texte ça avait été rodé depuis 2 mois.
Ouais.
Donc c'était bon. Et enfin il y a un côté on allait y aller et tout ce qui est technique, physique, c'est ce qui peut te lâcher, tu vois, un truc ça peut péter, une chaise ça peut tomber, c'est des trucs que tu peux pas vraiment maîtriser quoi. Et il y avait tout ça à mettre en place et c'est un peu le moins drôle quoi. Tu vois ce que je veux dire, c'est,
bah ouais,
c'est comme si avant de jouer à la Switch tu fais tous les branchements quoi.
Oui.
La preuve t'as pas réussi, tu vois.
Mais j'étais très heureux de te retrouver à ce moment-là parce que en fait en vrai ouais t'étais vraiment éclaté et je trouve ça cool de venir dire aussi aux gens en fait c'est pas que juste du rodage, c'est aussi tu vois tu m'as raconté que t'avais pris des stroboscopes dans la gueule pendant un temps infini.
T'as bonne mémoire.
parce qu'à
un moment où c'est censé clignoter, ouais. Et en fait il le faisait parce que ouais il y avait aussi le calage lumière et en fait j'étais obligé de me cacher les yeux sur scène et dès que j'ouvrais je voyais et t'es obligé d'être sur scène parce que tu fais doublure lumière. Donc si t'es très connu, bah t'envoies un pote ou quand j'allais en tournée, j'avais ma chargée de prod qui faisait ça pendant que j'arrivais plus tard. Moi, je prenais le train. La pauvre, elle devait subir tout ça. Et là, du coup, bah j'étais là. Bah évidemment, je le fais. Sauf que du coup, t'es sur scène debout et il t'éclaire et il voit comment ça rend avec ta peau, ta tête et tes fringues. Et ça, c'est le plus, je dirais le moins intéressant artistiquement pour moi, parce que c'est t'es un modèle vivant quoi. Pendant que justement, c'est le créateur lumière là qui crée à ce moment-là. C'est lui qui s'éclate à ce moment-là.
C'était dur cette partie de mise en scène en fait, parce qu'effectivement on peut parler de ces costumes qui sont incroyables. Qui t'a donné envie de bon, c'est un défilé, voilà,
c'est un défilé. Comment c'est un défilé de mode? C'est Drag Race, hein, on va pas se mentir.
Ouais.
C'est totalement Drag Race qui m'a donné envie de, justement, je me suis dit étant un artiste queer, allons quand même justement, il y a une espèce de démocratisation qui se fait avec Drag Race où maintenant il y a des viewing parties tous les étés.
Oui.
Les gens regardent, ça cartonne, c'est sur les chaînes hertziennes, c'est en clair et tout. Et bah, je me suis dit, je prends un peu de ça aussi, parce que je viens pas forcément de cet univers-là. Et surtout, j'ai découvert des costumiers, des costumières par Drag Race, et je les ai contactés. Et du coup, c'est comme ça que j'ai pu contacter Autopsy, qui m'a fait mon défilé d'ouverture, et Emmerich Zana, qui lui a fait ma tenue de scène tout au long du spectacle, qui sont des créateurs qui travaillent entre autres pour des drag queens, et ils ont une patte. Et je me suis dit, mais en fait, oui, moi, je peux me le permettre, dans le sens, tout le monde peut se le permettre, hein, mais je peux me le permettre, et financièrement, parce que ma prod me suivait là-dessus, et je peux me le permettre en termes de... J'ai envie de dire de message, de représentation et d'identité, parce que je suis pas un stand-upper qui va dire non mais c'est pas mon identité, moi je suis juste derrière un micro avec une lumière, je voulais que ce soit fabuleux, et l'affiche tu vois elle est très chargée, il y a des fleurs et des plumes. Je me suis dit il y a un truc à jouer dans le sens pas marketing mais dans le sens où limite je serais le seul à faire ça, tu vois. Et ça me plaît aussi.
T'as l'impression d'avoir trouvé ta patte artistiquement et visuellement, tu vois?
Alors visuellement
entre le premier et le deuxième par exemple.
Ouais, oui, ça c'est sûr. Le premier, j'ai plus écouté des conseils parce que je m'y connaissais moins. Il y a plus, pareil, ma metteuse en scène, elle a aussi beaucoup appris. Au début, on avait un créateur lumière qui nous avait fait une création lumière qui n'était pas représentative du spectacle. Mais pareil, tu commences. Et moi, je trouve que c'est intelligent de faire confiance aux autres en disant bon, bah, il a peut-être raison. Sauf qu'après, tu comprends que c'est des gens qui sont juste sur deux parce qu'ils parlent fort et qu'ils en savent pas plus que toi. Et que toi, si t'as une vision artistique, t'es tout aussi légitime. Et ça, pareil, c'est une question de confiance. Moi, il y a des gens plus jeunes que moi. Des artistes qui disent ouais non mais moi j'ai rencontré je sais pas tel chef de chaîne de télévision ou d'émission, je lui ai dit non mais moi je fais que ça, c'est pas mon style, je fais ça. J'étais là waouh, mais quel aplomb, moi j'aurais dit qu'est-ce que vous voulez que je fasse, il y a quelques années quoi. Et du coup c'est pour ça que la confiance, je me suis rendu compte c'était un vrai sujet. Et tu m'as dit, attends, si j'avais j'ai perdu le fil.
Je te lançais sur
pas trop loin.
La création artistique, la visuelle.
Ouais, et du coup, oui, alors là, j'ai été... en fait, c'est la création visuelle qui appartient à ce spectacle. Moi, j'ai envie qu'il soit foisonnant. Justement, donc il y a toute une DA autour de ça, justement, l'affiche, tout ça. Et j'étais maître à bord de tout ça. Et c'était génial parce que j'avais une prod qui m'accueillait en tant qu'artiste en disant « Bon, bah, qu'est-ce que tu veux ? Moi, j'imagine ça, ça, ça. Ok, bonne idée, on y va. » Et même pas « Ok, bonne idée » parce qu'il n'y a pas de validation, mais dans le sens... Ouais, ça nous parle. Et du coup, il y avait vraiment un autre dialogue et j'ai vraiment acquis de l'expérience avec avant, quoi, où tu dis, en fait, je suis légitime d'avoir une vision. Trouver ma patte en termes d'humour pur, je dirais oui. C'est des personnages, toujours de la mise en situation, de l'absurde, du décalage et du physique, du jeu un peu physique quand même.
Ouais, puis il y a du sérieux aussi.
Ouais,
on
ça c'est
parler après
dans tous les spectacles, ouais. Dans tous mes, ouais, il y a un peu un truc sérieux. Et artistiquement, non, on va dire, enfin, si j'ai trouvé ma patte, mais là c'est la DA comme un album. Je suis Taylor Swift, hein, c'est mon era, ouais. C'est mon era panache là. C'est à dire que j'ai déjà une idée de DA pour le prochain spectacle. Je sais pas ce dont je vais parler, mais j'ai déjà une idée de DA.
Ouais,
je trouve ça intéressant.
Mais ça devient d'où alors? C'est juste des trucs que tu chopes à droite,
ouais,
à gauche.
C'est comme des moodboards
sur Pinterest.
Non, c'est des moodboards, des trucs qui te parlent, des trucs. Tu vois là, en plus, quand tu regardes, bah pareil, des bons films, des bons spectacles. D'un coup, t'as des idées de DA, pas parce que tu le vois, mais parce que ça t'inspire des trucs. Moi, les idées, elles me viennent vraiment parce que je me nourris culturellement, artistiquement.
Et alors, tu fais concrètement quoi? Là, t'es pas en train de créer le futur spectacle.
Non, du tout.
Mais c'est-à-dire que t'as des images que tu mets à un moment donné, tu récupères des images sur Internet que tu fous dans un dossier, tu prends des petites notes.
Non, c'est dans ma tête.
C'est dans ta tête. Ouais.
C'est que
dans ta tête.
Si l'idée, elle est assez forte pour survivre sans être écrite, okay, c'est qu'il va falloir, il faut que je la fasse. Mais c'est dans ma tête pour l'instant. Oui, et puis c'est trop tôt.
Bah oui.
C'est des... Puis tu sais, c'est comme quand tu dis « Ah, j'aimerais bien redécorer ma maison ». Ça veut dire que c'est pas le fond, là c'est la forme. Donc tu peux t'amuser à penser, et si ça se trouve dans 2 ans, ça changera encore. Enfin tu vois, je verrai, je sais pas quand je ferai un nouveau spectacle, je pense. Il y a déjà lui, il a bien tourné, quoi.
Oui.
Ouais.
T'en as pour au moins...
Oh, je dirais 3 ans quand même.
Ah ouais ?
Bah là, j'ai déjà fait... En fait, oui, j'ai fait le rodage, mais pour officiellement, ça fait que depuis janvier. Donc ça fait que 3 mois. L'année prochaine, je reviens à Paris... donc je suis en tournée septembre, octobre, novembre, décembre, je suis à Paris janvier, février, mars, donc déjà on est sur 1 an.
Ah oui.
Peut-être qu'après si, soit je repars en tournée, soit il y a une on annonce une grosse salle et puis ouais finalement oui, 3 ans minimum. J'ai la voix grave là. Oula.
Oui, bonsoir.
Bonsoir. C'est Marc Lavoine.
Tu le tiens Marc Lavoine ou pas?
Du tout.
Non, mais qu'est-ce que tu sais que t'allais partir sur Marc Lavoine?
C'est vrai, je fume trop. Il me manque tant. Oh. Je me sens si seul. Non, je suis
ouais, pas mal.
Mais non.
Là, c'est en vrai.
Non, Jérémy Crédville le fait mieux quand même.
Oui. Attends, sur quoi je voulais t'amener?
Sur le moment triste du spectacle, non? Pas encore.
Pas triste. En fait,
ouais,
je suis pas sûr qu'il soit triste. C'est le moment sérieux. C'est le moment.
Alors, peut-être pas sérieux, le moment où on rigole pas. Mais il y a autre chose.
Oui.
Voilà.
Mais c'est vrai que, bah, pareil, dans Sensiblement Viril, il y a un moment où juste t'es sur scène et tu déclames un truc, tu vois.
Ouais, c'est vrai.
Et là, c'est pareil, en fait, tu démarres, et bon, il n'y a pas de blague. et tu parles de masculinité, en fait.
Ouais.
Et j'ai trouvé ça assez cool que tu viennes en parler. Et bon, je ne spoil pas encore une fois, mais.
Ah là, oui, non. Là, faut pas dire. Là, on dit pas la fin
dire,
du sketch.
Pas dire.
En fait, oui, je parle de.
Qu'est-ce qui t'a donné envie de parler de masculinité?
Bah, c'est un peu le spoil de la fin, quoi, du spectacle. Enfin, de la fin du, pas du spectacle, de ce sketch, mais c'est ça, c'est d'avoir été confronté de très près à quelqu'un qui revenait de tout ça et qui m'expliquait comme quelqu'un qui revenait d'une secte, tu vois, et qui disait comment il s'était fait embrigader et qui m'expliquait comment il s'était fait embrigader, enfin, comment l'évolution, l'explication, pas l'excuse, hein, mais l'explication d'être tombé dans la masculinité. Et en fait, tu te rends compte que c'est hyper. De décortiquer ça, j'ai failli. Je voulais en faire un podcast, tu vois, je voulais l'interviewer. En me disant, mais c'est tellement fascinant. Souvent, on va parler des victimes de masculinité, mais les gens qui sont le bourreau sont eux-mêmes des victimes de leur propre masculinité toxique.
Bien sûr.
Si on parle juste de masculinité, bon, c'est pas gênant, mais on parle vraiment de masculinité toxique. Hein. Et du coup, je trouvais ça hyper intéressant de dépecer et d'expliquer ça et de faire une espèce de montée en puissance où au début, on rigole sur le fait si j'étais hétéro. Donc en plus, je parle de mon point de vue. Donc ça, et finalement, cette personne, si elle est hétéro, elle parle un peu fort, elle fait ci, machin. Et puis ça dérive de plus en plus. Et ça, c'était un vrai boulot de mise en scène, pour le coup. Mmh. Où Alexandra m'a dit, on va pas plomber au bout d'une phrase et d'un coup, on va partir dans un truc un peu triste. C'est qu'on va faire monter tout doucement. En plus, tu l'as écrit comme ça. Où, du coup, il y a un peu des rires à des moments et les gens savent pas trop si c'est marrant, pas marrant, c'est pas trop. Ça enchaîne. Et à un moment, il y a vraiment où tu comprends que c'est plus drôle du tout, quoi. Et, Ouais, je pensais ça, c'est d'y avoir été confronté en me disant il y a un truc à faire, et surtout maintenant que j'ai une explication, je vais pouvoir en parler de ce point de vue. C'est pas l'explication forcément de tout le monde, mais j'ai l'impression qu'elle est quand même assez universelle,
ouais.
Où ça recèle finalement d'une trop grosse sensibilité, et c'est même l'inverse. Ces gens-là qui sont un peu toxiques, ils ont une sensibilité limite même plus que.
Bah il faut masquer, il faut ouais, camoufler
exactement.
Le plus possible.
Exactement.
En fait.
Donc, à force de cacher.
Forcément, il faut que tu fasses le mec, quoi.
Ouais.
Et d'ailleurs, tu dis un truc incroyable. Tu dis en gros, ma femme. C'est ma confidente et c'est elle connaît tous mes trucs, donc en fait elle devient mon ennemi numéro
ouais,
un quoi.
Ça c'est fou, quand il m'a expliqué ça, j'étais là mais c'est pas possible. En fait il m'a vraiment dit moi j'avais peur qu'elle me trahisse, et j'étais mais comment ça qu'elle te trahisse, qu'elle te trompe, qu'elle a avoir quelqu'un, non qu'elle me trahisse, mais comment ça, mais on n'est pas dans Game of Thrones quoi, tu sais, qu'elle pactise avec, c'est quoi. Et en fait il fait bah comme elle savait tout de moi, elle connaissait mes points faibles. Donc finalement, j'avais... Et en fait, je me suis dit, c'est dingue. C'est pour ça, souvent, les mecs toxiques sont hyper durs avec leurs femmes. C'est parce qu'en fait, comme il y a des moments, ils vont s'ouvrir un tout petit peu, ils vont leur en vouloir, et ils vont être encore plus... Ils font un ascendant. Et peut-être, pour être oppresseur, il faut quelqu'un à oppresser aussi. Hein, parce que
toujours.
Tu mets quelqu'un, un oppresseur sur une île déserte, bon, bah, ça devient une personne perdue. Non, mais tu vois, c'est qu'en fait, c'est des gens qui se définissent... Je suis allé voir un spectacle sur Gisèle Halimi, et elle disait la différence entre ce que les hommes ont, que les femmes pas, c'est qu'ils ont le pouvoir. Mais si t'as personne à diriger, ton pouvoir, il sert à rien.
Il sert à rien du tout.
Et du coup, ça vraiment, je suis revenu très loin quand j'ai eu cette phrase, quoi. J'avais peur qu'elle me trahisse, et je me suis dit, faut que je le dise. Faut que je dise, comme un point de vue. Donc, t'accèdes un peu à l'intérieur de ce personnage, masculin-toxique, quoi, et j'avais envie que ce soit une espèce d'explication, d'ouverture, de. Le livre s'ouvre, quoi. Et tu vois, tu comprends un peu les tenants et les aboutissants. Pourquoi il en est arrivé là.
Donc, c'est quelqu'un de ton entourage avec qui t'as discuté. Il y a une forme de...
Bah, du coup, tout ça, c'était une discussion de sa part, ouais.
De rédemption, quoi, c'est ça.
Il y a une forme de rédemption et... des fois, il y a des relents de... Donc, j'ai dû changer la fin. J'ai dû changer la fin plusieurs fois de ce sketch. Parce qu'il y avait des moments où ça finissait vraiment en mode réconciliation, et puis finalement non, parce que dans ma vie personnelle ça changeait aussi. Donc pour pas non plus aller dans l'intime, je te dirais que c'est un combat. Mais je reste un combat de longue haleine. Je reste pas loin, mais en tout cas quelle intelligence quand j'ai eu accès à cette parole, je savais que cette personne était très intelligente, mais quel retour, quelle autothérapie dingue quoi. De quelle clarté dans la vision, de comprendre à quel point il avait été dur quoi. Ça donne vraiment, les gens disent mais qui est cette personne, et en même temps c'est aussi du théâtre, ça veut dire que les gens demandent c'est vrai, c'est pas vrai. Maintenant je préfère répondre que ça appartient au spectacle, parce que c'est un instant de toute façon.
Comme
je règle pas mes comptes sur scène quoi.
Non,
voilà, j'essaye de pas le faire.
Parlons s'il te plaît,
oui,
de ce moment incroyable où tu chantes.
Ah oui, il y a ça aussi.
Non mais c'est incroyable. Il y a ça aussi.
Oui, il y a ça, mais parce qu'il est très riche ce spectacle.
Oui, mais c'est sûr, il y a plein de trucs.
Et c'est marrant parce que tu fais vraiment, on parle souvent, c'est ça les highlights, c'est quand même le défilé. Bah, c'est toutes les 10 minutes en fait, il y a quand même le défilé, Étienne Risson, directeur de centre culturel, le moment un peu plus down, et cette chanson qui est une chanson de R&B, mais avec un couple déconstruit. Un couple
Le R&B conscient,
un couple qui s'entend bien, et on se dit, en fait je me suis imaginé vraiment, alors ça là on peut parler vraiment de, je règle mes comptes, c'est vrai que là je règle mes comptes de manière générale dans Panache, je règle un peu mes comptes parce que ça aussi élément de langage, tu sais, les gens ils disent moi j'interprète mes personnages mais je les aime tous mes personnages, moi c'est l'inverse, moi tous ils m'énervent.
Ah ouais.
Ouais, je l'ai fait pour qu'on se moque d'eux. Et c'est, tu vois, c'est des personnages, donc on peut se moquer d'eux, c'est des personnages. Le directeur du centre culturel, c'est que j'ai vraiment subi un mec qui a parlé une heure avant un truc, j'en pouvais plus. Le coach qui est dépressif, c'est pareil, c'est ces gens qui te disent comment aller bien, c'est eux qui vont pas bien. La masculinité toxique, c'est quelque chose qu'on subit. Carole, elle est un peu relou. Carole, c'est un peu moi, donc voilà, c'est un peu moi, c'est relou. Le médium, c'est les gens qui vont te dire ça va jamais bien, ça va jamais bien, qui disent non, mais rentre. Enfin voilà, c'est les gens down et tout. Et en fait, vraiment, il y a tout un truc. Et cette chanson, j'en avais marre en fait d'écouter, mais tu sais pendant que tu, je sais pas, mauvais exemple, je vais dire pendant que tu conduis, je conduis très mal et je conduis jamais, donc pendant que tu fais à manger, tu sais, voilà le R&B qui passe, et puis ça installe le fait que les femmes doivent attendre qu'on leur réponde au téléphone et les mecs sont là. Moi c'est cette chanson,
il y a plus de R&B, Alex, il y a encore du R&B.
Amel Bent, Attic, fatigué d'être la seule à dire je t'aime, tu vois, les trucs un peu comme ça, je l'appelle ça du R&B moi. Okay. Je dirais Vita, Slimane peut-être pas trop, ouais, mais certaines chansons de Vita, Oui, il n'y en a plus vraiment, mais moi j'appelle. C'est quand même du R&B pour moi.
En tout cas, c'est des trucs avec lesquels on a pu grandir, quoi.
On a grandi avec ça.
Qui ont grandi, qui nous ont construit, etc., tu vois.
Oui, oui, Confession Nocturne, tout ça. Oui. On va dire des musiques urbaines.
Oui.
L'univers de la musique urbaine est souvent un peu patriarcal. Et ça me saoule un peu ce côté de. Bah, surtout cette chanson fatiguée d'être la seule à dire je t'aime. Ils ont fait une chanson où elle dit j'en ai marre de dire je t'aime. Et lui, il dit bah, je te le dirai pas. Et je suis. Et c'est drôle parce que je suis là. Vraiment, il lui dit ça. Et je trouve ça drôle de dire mais vous êtes pas censé être une team. Enfin, vous êtes pas censé être ensemble.
Le couple, ouais, c'est voilà. Ça, quoi. Oui.
Et en fait, bon, c'est une chanson. Ça peut être. On peut parler des moments qui vont pas parce qu'on parle que des moments qui vont bien, c'est nul. Mais je trouve ça. Il y a ce systématisme qui m'énervait un peu où c'est toujours ouais, il m'appelle pas, mais lui, c'est un gangsta, là, 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 et tout. Pour toi, je prendrais une balle, mais déjà, t'es personne à te flingue, déjà, on va se détendre. Tu vois, toujours cet univers. Hein. Non, mais voilà, Amel Bent, ça se trouve, elle vit dans le 16e, tout va bien. Non, mais voilà, bah tu vois. Cet univers un peu intense, urbain, calache, et on s'aime, on se déchire. Et en fait, je me suis dit, imaginons. Et je trouvais ça dur parce que souvent, c'est des ados qui vont écouter ça. Et je trouvais ça un peu fatigant. Et moi, bon, maintenant, tu vois, il y a limite des chansons anglaises, quand tu commences à les comprendre, tu te dis, putain, les messages qui sont véhiculés.
C'est hardcore, ouais.
Ouais, c'est un peu fatigant, quoi. Et voilà, j'ai imaginé une chanson de R&B avec un couple. Qui s'entend bien et en même temps que ce soit pas trop, que ce soit pas nié quoi, que ce soit quand même hyper urbain avec les codes de la musique urbaine. Et là, je suis en train d'écrire le clip, dis-toi.
Bah oui, mais en fait, à la fin du spectacle, tu dis, ouais, ça va être sur Spotify. Ouais. Je dis, ah, mais merci en fait, parce que c'est. Non, mais pour moi, je suis sûr que ça va schémar. C'est-à-dire que pour moi. Ah ouais?
Je sais pas, on va voir. Pour
non,
moi, c'est.
Déjà, musicalement, ça marche trop bien.
Ouais, bah c'est Dominique Mattei, Doumé, qui a fait une super. Ouais. Moi, j'ai écrit les paroles, mais qui a fait une super prod, on va pas se mentir. Ouais, je parle de prod. Ouais.
Parce qu'effectivement, ce couple est en train de se. Pas bah de se disputer, mais juste. Bah, ils sont capables. T'as vu Love is Blind ou pas?
Non.
Ah bah, tu vois ce que c'est?
Love is Blind, c'est une émission de télé-réalité.
C'est une émission de télé-réalité sur Netflix.
Ouais, ils se voient pas.
Ils se voient pas, en fait.
Et ils se parlent.
Mais ils se parlent. Okay. Et donc, pour moi, c'est une émission de télé-réalité, certes, mais avec une intelligence émotionnelle entre les personnages qui est de l'ordre de l'incroyable.
Ok.
Où ils sont capables vraiment de mettre leurs émotions sur la table et de dire, bah, tu vois, moi, voilà ce que j'ai ressenti à ce moment-là. Et quand tu m'as trompé, voilà comment je me suis ressenti. Okay. Etc.
Ah,
et c'est pas, t'es qu'une grosse merde. Ouais. Non, c'est juste, les gens parlent d'eux, quoi. Et je me suis, vraiment, ça me, j'ai pas vu beaucoup d'épisodes, mais à chaque fois, je suis là, mais qu'est-ce qui se passe? C'est vraiment en 2024.
Ouais, je pensais pas, tu vois.
C'est les réalités modernes, quoi. C'est pas les problèmes, quoi, tu vois.
D'accord, ouais. C'est pas, ouais, qu'est-ce que t'as dit sur moi? Nanani, nanana, ouais, ok.
Et c'est marrant parce que quand j'ai vu ça, quand j'ai vu ton sketch, je me suis dit, bah, tous les coups, Alex, il a dû voir Love is Blind parce que c'est vrai. Okay. Tu regarderas, c'est vraiment incroyable.
Non,
c'est vraiment ça. Et donc, mais c'est trop bien parce que justement, comme tu dis, ça doit sortir de la scène, je trouve. Ça doit arriver dans les oreilles. Ça doit être en traîne sur TikTok, en fait.
J'aimerais trop. Oui, ça, c'est pour ça qu'en fait, j'ai envie de bien préparer le lancement. Et pour le coup, faut vraiment s'entourer. Et je peux pas juste dire, je la mets là en espérant qu'elle prenne. Maintenant, il y a tellement d'infos et tout. Oui, il faut qu'il y ait des extraits sur TikTok. Faut que je la mette en musique TikTok. Ça, je sais pas. Faut que j'apprenne et tout. Donc, non. Et puis, le clip, j'aimerais bien, j'aimerais aussi qu'elle passe en radio, tu vois, faire un truc bien. Donc, je suis en train de préparer tout ça. Donc,
Tu vas le mettre dans un label et tout alors?
Bah, je sais pas, faudrait que je vois. J'ai un petit plan machiavélique en marche, right. Ça va pas prendre. Dans un an et demi, je te dirais, bah alors, t'as vu, gros flop. Hein. Mais non, j'ai envie de lui donner toutes ses chances. Donc, je disais, avant, je disais, t'es devenu un soir où c'était ça, je disais, oui, elle sortira fin avril sur Spotify, parce que je pensais à la fin de ma programmation, enchaîner avec le clip et tout. Et en fait, non, je pense que j'ai envie de faire ça bien. Donc, je vais prendre un peu plus de temps. Peut-être même la rentrée. Parce que finalement, tu vois, là, je reprends pas de date avant octobre. Donc, peut-être pour lancer la rentrée, le clip, tout ça, on va voir. Je voulais peut-être la passer cet été, mais je sais pas, on va voir. Mais c'est un nouveau projet, ça.
C'est une bonne... Ouais, c'est vrai.
Bah, en tout cas, ouais, le clip, c'est un gros projet.
Ouais, tu m'étonnes.
Et ça me donne même... J'ai envie de voir, mais j'ai presque envie de faire une phase B. Même moi, j'ai même pas connu les phases B. Mais comme un CD de titre, un single, tu vois, si on est saucé.
Justement, alors, peut-être... pour les jeunes qui nous écoutent...
Putain, pour les jeunes qui nous écoutent, à l'époque, sur les 33 tours, on achetait des CD et il y avait deux titres et toujours deux chansons.
Et puis les 45 tours, t'avais une face A. t'avais vraiment, il fallait retourner le disque.
Ouais, tu vois, j'ai pas connu les 45 tours, je sais. Donc,
moi, j'ai connu. Hein.
Ouais, j'ai peut-être connu avec mes parents. Et en tout cas, peut-être un single. Et bah, peut-être un single pour cet été, tu vois, je me dis. Peut-être pas le clipper, mais juste sortir un truc comme ça.
Bah ouais.
Une chanson marrante sans que ce soit les chansons beaufs, tu vois. Mais je trouve que je dis un exemple, mais c'est entre le fond et la forme, il y a une différence. Mais je trouve que ce qu'avait fait Michael Youn, tu vois, c'était des chansons qui cartonnaient, qui devenaient des tubes de l'été. Et en même temps, il y avait du recul et c'était marrant, tu vois.
Grave.
Et c'était pas toujours.
Franchement, je te souhaite le même succès.
En vrai, oui.
C'est incroyable.
C'était avec le recul, il y a des chansons que je trouvais un peu beaufs, mais en vrai, Tu vois, la chanson Fatal Bazooka, j'aime trop ton boule de mec, au final, c'était, il se moquait justement.
C'est incroyable.
Il se moquait de le côté hyper homophobe des rappeurs,
bien
quoi,
sûr. Fatal, c'est.
Et en fait, ouais, c'est.
Fatal, c'est fou, quoi.
Il y a de la recherche, d'accord.
T'as revu Fatal, Léa, récemment, parce que vraiment.
Ah, le film, non. Je crois que je l'ai jamais vu, le film. Ouais, tu mais moi, Michael Youn, j'étais sur Morning Love et je monte mes fesses et c'était moins mon univers. Alors,
ah ouais. Franchement, Fatal, pour le coup, il y a. Enfin, c'est, y a pas, je crois qu'il n'y a pas eu beaucoup de comédies françaises aussi bonnes. Astérix, Mission Cléopâtre,
ouais,
tu vois, bien sûr. Mais okay. Je l'ai revu là, il n'y a pas longtemps, et c'est incroyable. Okay. C'est, et surtout, ça date d'il y a 15 ans, quoi.
Ouais, ouais.
C'est vraiment visionnaire. C'est vraiment visionnaire.
Okay.
Et il y a un chanteur de... il y a... Comment il s'appelle Rousse... Merde, je vais couper ça, coupe ça, s'il te plaît, cette hésitation. Attends, je vais retrouver. Tu vois le...
Rousseau ?
Ouais, le...
Stéphane Rousseau.
Stéphane Rousseau.
Ah, il fait son rival, non ?
Ouais, il fait son rival, ah. Et c'est un chanteur de R&B écolo.
Ah, putain.
Et 2009, quoi. Ouais. Où il fait des bisous aux arbres et tout, quoi, tu vois.
Trop bien. Ah bah ouais, tu vois. Non, mais c'est pour ça, au final... Justement, pousser le côté, aller dans ces personnages grandiloquents et tout, il y a un truc à faire et je crois que c'est une DA qui me plaît bien. Ouais.
Ah, c'est fou que t'aies jamais vu Fatal.
Ouais, mais j'étais pas très Michael Youn, quoi. Ça faisait un peu le ton pote de BDE et j'étais là, ouais, c'est pas
ouais,
ma cam.
C'est moins ta cam.
C'était moins ma cam, ouais. Alors que tu vois, finalement, avec le recul, tu vois, Fatal, très bon, très marrant, quoi.
Mais sort un album. Hein.
Un album, c'est plus long et il faut vraiment qu'il y en ait une qui marche déjà, je pense. Pour me dire, sinon ça fait vraiment le mec qui s'entête, quoi. Mais peut-être entre les deux spectacles, un album, ça me ferait marrer parce que tu reprends tous les codes. En plus, je suis avec un compositeur de malade et ça aide beaucoup. On va pas se mentir. Et ouais, tu fais des clips et tout, faudrait voir. Moi, ça m'éclaterait. J'adore les clips vidéo, donc peut-être que tu vois, après les low cost, partir dans un autre univers, ça peut être super. Hein.
Oui.
Ouais, c'est en train de germer.
Ah ouais ?
Ouais, à voir. Mais moi, j'ai aucune velléité à être chanteur, donc tu vois, moi, tu me voice code, tu machins, je m'en fiche. Puis je l'assume, quoi.
Oui.
Donc à voir l'idée, enfin si c'est un album pour la blague, je trouve qu'il faut déjà avoir une, je sais pas, faut que le spectacle déjà marche bien, que mon activité principale qui est la scène reste mon activité principale et après les bonus, chansons, tout ça, ça m'éclaterait, ouais. Ouais.
Ah ouais, tu ferais une pause
Non, sans faire une pause, juste entre les deux ou pendant l'exploitation du spectacle ou machin. Je suis pas fermé. En fait, moi, j'adore jouer avec les univers qui sont hyper et jouer avec les codes. Et c'est vrai que la musique, il y en a tellement que ça peut être super.
Mais en vrai, tu pourrais très bien monter une collection Simon Fenêtre Jacquemus, quoi. Tu vois, limite vu le nombre.
Ah, pour les. Alors, on part sur autre chose, là, oui.
Non, mais.
Ah, sur la mode.
En fait,
oui.
À chaque fois que tu fais un truc, tu crées tellement.
Oui, c'est vrai.
Que tu pourrais juste te prendre au jeu et te dire, OK,
je
pourrais faire un vrai défilé, quoi. Tu vois.
Ce serait génial. J'inviterais tout le monde et tout. Pour lancer. Non, mais c'est vrai, parce que pour moi, là, j'ai fait une vidéo qui annonce toutes les dates de tournée.
Non, mais j'ai vu, c'est incroyable.
Et donc, chaque costume correspond à une ville dans laquelle je vais jouer, voilà. Pour les
je mettrai le lien dans les notes pour que vous alliez voir cette vidéo. C'est fou.
Et pour moi, c'est un peu je suis arrivé à l'évolution ultime de ce que je peux faire avec Simon Fenêtre Jacquemus, mes parodies de défilé, parce que tu vois, je suis dans le hall de la salle Playel et tout. Mais je pense que l'événement en plus, comme quoi c'est toujours bien de parler, faire des podcasts parce que tu parles de tes créations, tu parles de toi, blablabla, mais au moins tu les sors, tes idées. Je pense que pour moi, je me dis c'est la dernière que j'ai fait parce que je peux pas faire plus haut, quoi. Il y a 14 tenues.
Oh, c'est fou.
Tu vois, c'est filmé vraiment de manière pro, c'est pas moi dans un jardin, quoi. Et même si j'aime le côté quand même craft, hein, mais tu vois.
Ouais.
Et en fait, je me dis peut-être l'événement à faire en plus, ça serait faire une vraie rentrée mode avec des vrais, enfin
la
vraie
Fashion Week.
Ouais, bah finalement là, c'est sorti une semaine après, tu vois. Mais de toute façon, il y a Fashion Week toutes les deux semaines à Paris.
Oui.
Donc. Mais de faire un vrai événement à la con et de faire un vrai défilé, ça pourrait être très drôle. Mais dans ce cas-là, il faudrait que je trouve un thème. Moi, faut toujours un thème dans mes tenues, quoi. Mais ça dérange pas, tu vois, là, Balmain, Olivier Rousteing, c'était Bordeaux, le thème. Et... Non, c'était vraiment ça. Il y avait du raisin partout.
Non, mais c'est
en plus
fou.
Cliché, beaucoup plus cliché que moi, quoi, qui suis allé chercher d'autres trucs, quoi. Bon, j'avais un sac à main en bouteille de vin quand même, mais ouais, c'était du raisin, quoi. Bordeaux, du raisin. Donc en fait, faut juste avoir une idée de l'orfèvre, enfin des métiers qu'ils savent faire, et puis après, t'y vas. Donc, pas con, à voir, ouais. Mm-hmm.
Mm-hmm. Là, t'as. En fait, c'est marrant parce que j'ai vraiment l'impression que t'es arrivé. Peut-être je me trompe, hein, mais t'es arrivé à un stade de ta carrière où. J'ai l'impression que tu vas avoir plein d'opportunités. On t'a vu au cinéma il n'y a pas très longtemps. Tu as été en bonne conduite.
Ouais.
Je t'ai vu aussi dans le Visiteur du futur.
Oui, c'est vrai.
T'as envie de tout faire en même temps, de tout bouffer en même temps, de réussir à tout faire.
Oui, oui, puisqu'en plus, tu vois, là, les films, ça commence à remonter. Et
quand tu veux dire ça remonte, oui,
ça remonte, ouais. Oui, ça remonte.
La Bonne
quelques...
Conduite, c'est sorti l'année passée, non?
Oui, c'est sorti l'année passée, mais du coup, c'est-à-dire que t'as tourné l'année d'avant, tu vois. Ouais. Et comme là, je suis pas sur des tournages, je sortirai rien, je serai pas au cinéma avant, tu vois, 2-3 ans même. Donc il y a des projets comme ça qui... Là, c'est le... Faut transformer l'essai. Ça veut dire que moi, j'ai changé aussi. Je suis plus la personne que j'ai... Enfin, surtout, on t'appelle souvent pour ce que t'es au cinéma, tu vois. Tu peux pas vraiment mentir, à part si vraiment t'es... Tu te caches des perruques ou des machins, mais c'est un autre style de cinéma, tu vois.
Quand tu dis t'as changé, ça veut dire quoi?
Bah, j'ai changé en termes de la manière dont je veux, enfin, même dans le spectacle, tu vois, je sais plus le même spectacle, je suis plus le petit gars un peu frêle qui parlait très vite, qui fait, et du coup, ça aussi, c'est une autre identité à, les réalisateurs et réalisatrices, c'est pas qu'ils ont pas d'imagination, mais c'est qu'ils vont prendre un rôle pour lequel tu corresponds, ils vont pas se dire, ah, je vais l'emmener là-bas et tout, sauf si t'es très connu. Et du coup, et puis on va pas se mentir, j'ai pris des muscles aussi, voilà.
Oui, je vais en parler.
T'as poussé. J'ai poussé à la fonte. Non, mais parce que ça, c'était quand j'écrivais le spectacle. On en parlera, si tu veux. Et du coup, il y a tout ça. Et pour moi, je trouve que panache, ça participe à ça. Et c'est pour ça que je trouve que c'est un peu le This is the new me. Venez me voir et pour voir que je peux tout jouer, que je peux. Tu vois, c'est un peu ma bande démo sans que ce soit. Regardez. Et je trouve qu'il y a tout à refaire. Et du coup, pareil, ça prend du temps. Et je suis assez patient. Et en étant impatient aussi. Donc en fait, faut être patient, mais toujours nager, quoi. Comme on dit, quoi. C'est-à-dire que.
Faut être patient, mais toujours nager.
Ouais, faut toujours. Être patient, c'est pas attendre chez soi et rien faire. Être patient, c'est se dire, c'est provoquer la chance plein de fois, travailler, mais se dire ça va pas peut-être venir tout de suite.
Okay.
Et pour ce qui est projet de série, tout ça, je trouve que j'avais des projets, mais ils ont pas mal évolué, des projets de format court. T'attends des réponses, des idées. Et moi, je trouve que comme j'ai sorti ce spectacle, je vais me laisser justement les 6 mois entre les. Je vais m'arrêter en avril et je vais reprendre la tournée en septembre. Et ces 6 mois-là, 5 mois. Bon, il y aura de la vacance, évidemment. De la vacance, évidemment. Et c'est comme de la feta,
vacances.
Quoi. De la feta, de la vacance, quoi. Et du coup... mais je vais quand même me laisser pour voir comment je vais... sur quoi je vais enchaîner, quoi. Donc, il y a le clip, mais en vrai projet, en vrai format court et tout, il faut que je me laisse le temps et pas je me dise « Ah, c'est quoi qui marche en ce moment ?» Surtout dans la fiction. Si je me dis « C'est quoi qui marche en ce moment ?» C'est déjà en train de se faire. Et donc, du coup, c'est pas ce dont les gens auront envie plus tard, quoi.
T'arrives à rien faire ? À te laisser le
non.
temps.
Non.
Ce que j'allais dire, c'est que je.
Non, non, non. Non, en fait.
Comment tu fais pour laisser reposer?
Bah, ouais, c'est le problème. Bah, là, tu vois, j'ai un peu envie de laisser reposer.
Ouais.
Ouais, justement. Le
créativement,
fait que...
tu vois.
Ah, en fait, créativement.
Quand je dis laisser reposer, tu vois, j'imagine, tu sais, t'as secoué la bouteille, là, avec un peu de terre dedans, tu sais, t'attends que la terre.
Ah, j'étais sur l'Orangina, mais ok.
Ouais,
t'as raison, la terre, ouais. Ouais, ça, et bah, ça, c'est très compliqué parce que oui, souvent, je vais pas me laisser le temps parce que j'ai l'impression que c'est un peu une course en avant et tout. Mais, en vrai, là, par exemple, il y a des idées. En fait, quand les idées pointent le bout de leur nez, c'est que j'ai laissé reposer, c'est que je me suis mis en pause sur des trucs. Et en vrai, moi, souvent, j'aime bien avoir une idée. Et c'est à ce moment-là, comme j'ai l'idée un peu, on va dire, physiquement, elle est pas à côté de moi, elle est au bout de la pièce, donc je la vois, je sais à peu près à quoi elle ressemble, mais en même temps, j'y suis pas tout de suite. Quand je sais que j'ai une idée, là, je fais des pauses. Parce que je sais que
il faut.
Ça augure des gens meilleurs, mais surtout que ça va arriver. C'est quand j'ai rien que je panique et que je vais créer le plus, en fait. Ouais, le vide, c'est pas, non. Je peux pas partir en vacances si j'ai pas bien travaillé, par exemple. Et bien travailler, pour moi, c'est avoir trouvé des bonnes idées, créer, avoir eu un élan qui fait que c'est bon, je peux partir.
Ah, yes.
Même si des fois c'est rien, ça donne rien, tu vois. Mais je peux partir en vacances, je peux faire une vraie pause. Et puis après, sinon, je procrastine beaucoup. Il y a un sketch dans mon spectacle où je suis censé écrire un sketch et au final, je vais faire plein d'autres choses. Et ça, c'est quand même aussi mon quotidien. En ce moment, il s'appelle Prince of Persia. Je t'avouerai, je me suis donné un défi de faire une vidéo par semaine au moins pour les réseaux. Je verrai, parce que Prince of Persia, c'est assez passionnant. Donc, on va voir.
Tu joues au jeu?
Je joue aux jeux vidéo, ouais. Bah là, Prince of Persia, je suis tombé dedans. J'adore, c'est beau, il y a des énigmes, il y a du combat, il y a des créatures, c'est très beau. Mais ça va être une période, et puis après, ça, tu vois, les beaux jours arrivent, peut-être que j'irai faire autre chose, quoi.
Ok. Ton quotidien te permet de... Là, comme là, t'es en train de jouer, tes journées, c'est quoi? C'est promo? Et tu vas...
Ouais.
Et après, le soir, tu joues, c'est ça?
C'est promo, on va dire, deux matinées par semaine, quoi, je pense, okay. Si tu résumes ça. Des après-midi, salle de sport...
On va en parler.
Et le spectacle, ouais, 3 fois par semaine. Et après, souvent, je vais me reposer dimanche, lundi. Mais des fois, il y a de la promo le lundi et des petits tournages par-ci par-là, tu vois. Voilà.
On a parlé de toi dans un podcast qu'on fait avec Mimi, tu sais, avec qui t'étais venu faire des vidéos chez Mademoiselle et tout. Et Mimi parlait justement de cette fameuse vidéo où t'étais venu lui jouer avec elle il y a 6 ans de ça. Et effectivement, t'étais un jeune piment, quoi, tu vois, il y a 6 piges, t'étais tout svelte. Et justement, c'est trop marrant, t'as poussé de ouf, là.
Un jeune piment, ouais, ouais, ça va,
ouais,
j'ai poussé.
Le, vous ne voyez pas la meilleure en train de regarder ses pecs, le mec.
Pourquoi j'ai mis du XS, c'est le secret. Si tu mets du XS, t'as l'impression d'être très,
moi,
très musclé.
Si je mets du XS, je suis pas, j'ai pas la même gueule que toi. Mais
pourquoi qu'est-ce qui t'a donné envie de pousser comme ça? Non, mais c'est vrai, c'est trop marrant.
En fait, ça a été. Bah, en fait, j'y allais déjà.
T'es devenu un go-muscu.
Un go-muscu?
Tu vois. Ah ouais.
C'est quoi un go muscu?
C'est un mec qui va à la muscu, qui va à la salle. C'est un go muscu, c'est un peu, c'est une. D'ailleurs, je crois que ça vient un peu de JVC et tout. Tu vois des milieux un peu mascu, tu vois.
Ah ouais, merde.
Ils disent les mecs, c'est devenu des.
Go muscu.
Quand tu vas à la muscu, c'est go muscu, quoi.
Ah ok. Bah je suis devenu un go muscu, ça c'est vrai. Mais pas mascu toxique du tout. Justement, c'est encore plus drôle de jouer avec tous ces codes. C'est surtout en fait l'année dernière. L'année dernière, comme j'ai créé mon spectacle, il y a une vraie pause. C'est-à-dire que vraiment, on t'appelle pour des projets, tout ça, mais sinon, t'es vraiment chez toi en train d'écrire un spectacle où tu pars en résidence. Et vraiment, je me suis dit, là, il y a une salle de sport pas loin de chez moi. On va faire le corps et l'esprit parce que sinon, je culpabilisais d'aller voir des potes ou d'organiser des sorties. Je disais, non, mais faut que je reste chez moi, faut que j'écrive. Sauf qu'en fait, du coup, tu passes tes semaines à être chez toi et souvent, tu procrastines, t'écris pas tant que ça.
T'ouvres
beaucoup trop d'onglets
sur Internet.
Exactement. Et du coup, je me suis dit, en fait, le matin, je vais aller au sport. Et la vraie, c'est con à dire, mais la vraie transformation, c'est pas, ouais, j'ai pris des produits, nanana. C'est vraiment que j'ai rencontré un type qui est fabuleux parce que c'est une créature, dans le sens où c'est un coach, anciennement danseur au ballet de l'Opéra de Paris. Il s'est devenu un pote, donc tu vois, je le paye pas, on s'entraîne ensemble. Et il est quand même très musclé, il fait 1m90 et en même temps très... J'allais dire, enfin, c'est pas très efféminé, mais ouais, il a une espèce de grâce parce que tu vois, danseur.
Ouais, il est danseur.
Et
quoi.
En même temps, il a eu 12 vies puisqu'il a été justement go-go dancer. Là, il est coach aussi. Donc, c'est une espèce d'armoire à glace avec des débardeurs très, très, très petits. Et en fait, très, très cool aussi. Et d'origine italienne. Donc, en plus, avec un accent. Et il est super cool. Et en fait, c'était super cool parce que du coup, j'avais un entraînement par quelqu'un qui savait de quoi il parlait. Et il m'a dit, viens, si t'es. Moi, ça m'éclate. Moi, je fais beau. Enfin, moi, je suis là tous les matins, tout ça. Bah, vas-y, on s'entraîne ensemble si tu veux, tu vois. Et du coup, on s'est entraîné ensemble et oui, j'ai eu un changement parce que là, je me suis mieux entraîné et tout. Et quand tu vois des changements, on va pas se mentir, ça fait plaisir à l'ego. Moi, j'aime bien être musclé et que ça se voit sans que ce soit non plus, outrancier, mais je trouve ça cool. Et du coup, j'ai dit, vas-y, let's go. Tant que je pourrais, tu vois. Puis, mine de rien, ça fait, t'as de la santé, ça te met en bonne santé, quoi. Et tant que je pourrais, tant que j'aurai le temps, tout ça, je continuerai, quoi. Donc, ouais, voilà, je suis un go musclé, putain. Mais tu vois, par exemple, si j'ai une promo ou un projet, évidemment que je vais d'abord faire la promo ou le projet, quoi. J'ai pas. Mais si je peux, genre, caler des trucs l'après-midi parce que j'ai sport le matin, ouais, tu vois, tant qu'à faire, oui.
Ah, yes.
Ouais.
Et t'as changé ton régime et tout? T'es vraiment rentré dans le game ou alors c'est juste.
Non, en fait, non. Moi, il s'avère que. Non. Je sais pas comment dire. Non, mais je réfléchis parce que. En fait, non, j'essaie de manger sainement parce que sinon, même si tu fais du sport, tu prends du poids et du gras, on va pas se mentir. Hein. Et ouais, du cardio. Non, là, ce qu'ils mettent, c'est que je vais en vélo à la salle. De spectacle parce que c'est à Pigalle et que je suis vraiment à 30 minutes en vélo, et aussi le fait d'être sur scène, en fait tu brûles donc ça c'est génial. Là pour le coup tu peux manger ce que tu veux quand t'es sur scène, il y a toujours ce truc là où en fait c'est tellement, enfin c'est pas éprouvant, mais il y a de l'adrénaline, tout ça, t'es sur scène. Puis moi justement je suis pas juste debout derrière un micro. J'adore que ça soit devenu un podcast de santé,
de nutrition
santé. Et non, je fais pas du tout moi ça me déprime, tu sais, les tupperwares avec, je sais pas, poulet, brocoli et riz pendant 3 semaines et tout. Non, ça serait peut-être la limite, du coup, je m'arrêterais, le but c'est pas
de justement, dire, oui, c'est ça, c'est que, en fait, je me demandais un petit peu, par rapport à l'image que t'avais de toi,
ouais,
en quoi ça a changé ton image?
Ah, je sais pas si, en fait, c'était pas une question de, j'ai pas confiance, j'arrive pas à parler aux gens, ou j'ai pas confiance, je vais travailler à la salle comme ça.
Non, c'est pas ton style.
Non, c'est pas mon style, ça. Donc c'était plutôt, il y avait quand même une recherche esthétique, on va pas se mentir. En fait, je me suis aussi dit, c'était pendant que j'écrivais le spectacle, ça, je me suis dit, en vrai, c'est maintenant ou jamais. C'est-à-dire que je vais voir jusqu'où ça peut m'emmener, dans le sens de m'entraîner régulièrement, tu vois. Et puis on va pas se mentir, les réseaux sociaux, Instagram et tout ça, il y a un côté. Et encore plus le milieu gay. Je suis pas très milieu gay, mais en tout cas, il y a milieu gay. T'as quand même justement cette espèce des fois de corps. De corps unique un peu, tu vois, bronzé, ouais, avec des abdos, tout ça. Et je me suis dit, tu sais, je suis en train d'écrire un spectacle. Donc, c'est-à-dire que artistiquement, je suis complet, dans le sens où je m'éclate et je deviens pas justement une... Enfin, c'est pas que je deviens pas un abruti total, mais c'est que je me perds pas. Donc, je me suis dit, on a le, voilà, le corps et l'esprit. C'est-à-dire que je suis en train d'écrire, je suis en train de créer, je suis en train de faire des personnages qui m'éclatent. Et bah, je me donne un an pour voir ce que ça peut donner, okay, aussi en termes physiquement.
Et parce que mais t'aurais pu faire un autre sport, tu vois. T'aurais, ouais, pu aller faire de la course, t'aurais pu aller faire un marathon, etc.
Mais j'aime pas trop le sport. Donc je pense que c'était. Okay. Ouais, non. non, vraiment. Ah, c'est, je crois que je suis plus content des résultats que de faire le.
Ah, que de faire le truc.
Ouais, que de faire le truc. Ouais. Je suis pas. Non, je suis pas très. Et surtout, le sport, souvent dans les associations, les machins, il y a des super associations, il y a des super sports, mais il faut être régulier. Tu vois, dans le sens où bah, c'est tous les mardis soirs. Mmh. Déjà, c'est le soir. Donc, tout ce qui est spectacle, culture, ouais, c'est moins possible. Mmh. Ouais, tu vois. Et du coup, je me suis dit, c'est pour m'inscrire à un truc et jamais y aller. La danse aussi, ça m'intéressait pas mal. Mais maintenant, la danse, les gens ont des niveaux. Même le cours débutant, j'en ai fait, tu vois. T'es perdu. La danse, grosse épreuve aussi pour la, je trouve, la dignité, dans le sens où t'y arrives pas, mais tu dis, je continue. Tu vois ce que je veux dire? Il y a un côté.
Ah ouais, même les cours débutants, parce que tu danses super bien.
Bah ouais, mais là, la danse, je sais pas. Pareil aussi, des horaires, des trucs. Et en fait, je me suis dit, la salle, personne m'attend. Je peux y aller quand je veux. Si j'y vais pas, personne me le reproche, à part mon pote, mais des fois il est pas là, tu vois, on s'organise. Il y a un côté un peu plus libre, et mais oui, il faut pas perdre non plus la souplesse, et je vais pas devenir une armoire à glace, de toute façon. Quand je dis ça dans un an et demi, je serai là, ouais.
Ouais, salut. merde, attends, j'avais.
Mais c'est...
Ouais, vas-y, vas-y.
Ouais, ouais. Non, mais c'est, je suis d'accord que c'est. Et surtout là, maintenant que j'ai mon spectacle et tout, il y a un côté. Je dirais pas que c'est très gamin, mais c'est vraiment. C'est très, ouais, c'est un peu, c'est pas une approche enfantine, mais c'est un peu, ouais, les gros muscles. Tu vois, il y a un côté, c'est marrant, sans que ce soit oppresseur et.
Est-ce que est-ce que t'es devenu, enfin, en fait, moi, quand j'ai grandi avec ce truc de, moi, j'ai grandi avec Schwarzenegger, avec Stallone et tout, quoi, tu vois. Donc, c'était vraiment, genre, les mecs musclés, quoi, tu vois. Et je crois que quand j'étais gamin, notamment, j'avais un peu ce truc de, on regardait les veines qui ressortaient quand, tu vois, ah, genre, ouais, j'avais 13, 14 ans, tu disais, oh, regarde, j'ai une veine là qui ressort, ça voulait dire que t'étais musclé.
Pas du tout, moi.
Ouais, j'imagine. Mais il y a un truc aussi où c'est, t'es devenu un peu le Alex que t'aurais bien aimé être quand t'avais genre 12, 13, 14 ans ou?
Ah, peut-être, je sais pas. En fait, à 12, 13, 14 ans, je fantasmais sur ni les filles ni les mecs, il y avait aucun. J'étais vraiment l'effet, quoi. Non, c'était vraiment Harry Potter. Non, mais il y avait ce truc-là.
Ah ouais.
C'est, j'étais vraiment. J'étais pas du tout sexualisé, quoi. Donc il y avait vraiment. Enfin, même ce truc de désir ou de. Waouh, de fascination. Mm. Non, par contre, oui. Même, je dirais peut-être plus autour de la personne que j'avais envie d'être, peut-être autour de. Ouais, 25 ans, peut-être. Okay. Tu vois. Mon rêve, c'était d'être sur scène. De dire aussi, j'avais vraiment eu un rêve, enfin, un truc où je me disais, je m'imaginais dire que j'étais gay sur scène tout en disant, en faisant une vanne, bon, mieux écrite que ça, mais je disais, vous inquiétez pas les gars, je vais pas vous violer, parce que tu sais, à l'époque, t'avais ce côté d'exilé, ouais, les mecs, ils disaient, voilà. Et finalement, je l'ai fait avec Sensiblement Viril, mmh, mieux écrit, donc finalement, j'étais, waouh. Et panache, c'est, ouais, c'est encore une autre recherche, et en fait, oui, peut-être physiquement, et aussi, je me suis dit, c'est maintenant ou jamais, quand je serai vieux, je pourrais pas dire, ah, j'aurais bien aimé voir jusqu'où je peux aller en termes de, enfin, pas en termes de physique, je sais pas comment dire, c'est étrange de dire ça, parce que l'idée, c'est pas de.
Parce que là, t'as l'impression que t'es pas arrivé?
Bah si,
en termes de physique.
Bah, déjà, on n'est jamais content de ce qu'on a, ça c'est évident. Ça, ouais, pourrait être en termes de cheveux, en termes de... même en termes artistiques, tu vois. C'est-à-dire que tu me diras, t'as l'impression d'être... Non, j'ai l'impression de pas être... Mais tu peux remplacer par artistique ou okay, en termes de carrière, tu vois. Mais en tout cas, c'est un truc qui est un peu annexe, qui, sur lequel je me dépense aussi parce que je me rends compte que... C'est bien de lâcher, ouais, lâcher prise, et ouais, physiquement, c'est bien de faire une activité régulière sportive. Mais moi, tu vois, pendant le Covid, c'était Just Dance, hein, où t'es en, mmh, sueur et tu danses. Ça aussi, c'est super, tu vois. Mais ça peut être aussi boire un verre avec des potes et prendre des fous rires. Ça, c'est pareil, c'est un sport qui est très important, hein, qu'il faut faire régulièrement. Il faut qu'il y ait un peu de tout, quoi. Et mmh, oui, je te dis, ouais, au final, c'était l'idée un peu de je vais me donner les moyens pour, plutôt que de dire voilà, c'est ça. En fait, j'avais pas envie d'aller à la salle pour en dilettante. Mmh. Voilà, tu pourrais couper tout ce qu'il y a eu avant. C'était vraiment ça que je voulais dire, l'info principale. C'est, je me dis, quitte à faire quelque chose, pas autant y aller à fond, mais autant le faire bien. C'est comme si je disais, ah ouais, j'écris un sketch, mais je verrai, peut-être je fais un comedy club. En fait, je me suis dit, arrête de te mentir, tu veux aller à la salle pour avoir un peu des muscles, que ça se voit, et bah, donne-toi les moyens.
Ah
donc,
ouais.
Voilà. Donc, je me suis dit, bah voilà, j'ai un an, j'écris un spectacle, j'ai un an, on va voir ce qui se passe. Et
incroyable.
Voilà.
Mais donc, tu t'es fixé un objectif?
Non, l'objectif,
non, juste,
c'est...
c'était juste.
Ouais, c'est. Ouais, je sais pas. Je dis,
tu me sens,
ouais,
bien, quoi.
Ouais, je me sens bien. Tu vois les résultats, mais je suis pas en mode en train de comparer. Je prends, je fais pas des tours de. Je fais pas des tours de centimètres avec mon.
Tu t'es quand même pris en photo un peu et tout, non?
Ouais, mais alors dis-toi que
Souvent, les gens qui ouais. commencent à faire ça, ils prennent en photo
ouais,
un peu.
Ouais, mais alors, il n'y a rien de plus, je trouve, perturbant, t'es de dire, allez, c'est le premier jeu en direct de ma vie, on y va.
Ah, oui.
Et à partir de ça, j'ai machin, parce que souvent, en plus, tu fais des pauses ou tu tombes malade, après, tu t'en veux. Et en fait, ça, c'était tout ça, pareil, ça a terminé la
t'en
culpabilisation et tout.
Okay.
Ah ouais, non, faut que ça reste une fête. Hein. On va tous crever au final à la fin.
Tu veux qu'on parle de la mort?
Non. Je suis obligé de toucher du bois du coup maintenant.
Ah oh merde, c'est vrai, ouais. T'es superstitieux.
En fait, je trouve ça trop con de me dire putain, on a parlé de la mort et là d'un coup t'as un proche qui meurt et tu dis putain, c'est ben on en a parlé. Je trouvais ça tellement con que ça arrive que
ouais,
je touche du bois. Non mais ça serait con que je le fasse pas, tu vois ce que je veux dire. Non ouais non, c'est pas un truc qui me dans quand on fera le 12e podcast, je te dirais bah écoute, là j'ai 57 ans peut-être que ouais, c'est tous les 1 an et demi ouais.
C'est trop drôle que tu parles d'un proche parce que moi je pensais que t'allais parler de ta propre mort.
Là on touche du bois de ouf. Ah bah ça c'est même impensable.
Ah ouais.
Ouais, c'est-à-dire que tu vois là, je suis plus sur le
oui, c'est trop marrant.
Je suis plus sur les personnes plus âgées dans mon entourage qui vont où j'essaie de me le figurer sans y penser ou quoi machin. Mais ouais non, moi c'est impensable. C'est-à-dire qu'à un moment, j'ai repensé à pas longtemps en disant "Ah non, j'ai pas encore fait tout ce que j'avais prévu de faire en fait,
ouais.
C'est ça. C'est l'idée ça. C'est vraiment ça.
T'es sûr de ça?
Que j'ai pas encore fait tout ce que j'avais prévu de faire. J'essaie de plus en fait, je trouve que ça serait un peu un aveu d'échec. Ça
ah
serait
ouais.
me mentir à moi-même de dire "Non mais c'est bien là, je suis content de ce que j'ai fait parce qu'en vrai, j'ai d'autres rêves et
okay.
Quitte à me dire, j'ai pas réussi, mais j'ai tout fait pour.
C'est quoi tes autres rêves?
Bah, c'est des premiers rôles au cinéma. C'est justement, c'est faire des projets où, en fait, parce que t'as l'idée, t'es assez connu. Être connu pour connu, c'est pas ce qui m'intéresse, mais être assez connu pour te dire, ah putain, c'est avec telle personne. Enfin, tu peux mettre en place des projets. Mes rêves, c'est de réaliser mes idées. Pas forcément en tant que réalisateur, mais qu'elles se concrétisent. Donc, ça veut dire que c'est, voilà, j'ai une idée d'album. Bon, bah voilà, le mec est assez connu pour qu'on lui fasse confiance et on sait que ça va marcher et puis voilà j'ai une idée de spectacle et bah faire des salles aussi de plus en plus grandes.
T'es pas arrivé à ce stade tu crois de notoriété où aujourd'hui tu peux arriver avec n'importe quel projet dans un milieu artistique et dire bon bah voilà j'aimerais bien faire ça et
c'est moite d'un côté je vais te dire non concrètement non et d'un autre je me dis en fait il y a tellement de gens qui sont à des niveaux moindres de notoriété, je sais pas à quoi ça se peut-être le nombre d'abonnés, je sais pas à quoi vraiment ça se dit et qui arrivent à faire des choses parce qu'en fait faut juste avoir la niaque, l'envie, trouver les bonnes personnes. Donc c'est un entre deux.
Okay.
C'est plutôt le côté, peut-être que plutôt le côté être vraiment installé dans le paysage, je dirais audiovisuel ou humoristique, mais vraiment installé au point que on pense à moi peut-être pour des projets que c'est pas moi qui les initie, tu vois.
Ah yes.
Parce que moi je suis vraiment, c'est... moi j'ai, bah, on a pensé à moi pour des trucs, mais moi je suis vraiment le mec, j'ai envie qu'on m'invite à tous les anniversaires. Voilà. J'ai envie qu'on pense à moi pour tous les anniversaires. Et or moi des fois je vais pas penser à tout le monde pour mes anniversaires. Enfin tu vois c'est une métaphore, mais c'est vraiment ça. J'ai cette espèce de FOMO. Qui va donner lieu sûrement peut-être à un court-métrage ou peut-être à une série que je suis en train d'écrire, à voir. Je peux pas t'en dire plus.
En septembre 2022, tu disais que t'étais en train d'écrire, alors je sais plus si c'était une série ou un film, dont t'étais le rôle principal.
Ouais.
Parce que, en gros, c'est le rôle que t'as envie de jouer, donc après tout, pourquoi.
Exactement.
Pourquoi s'emmerder, quoi.
Ouais, c'est cette série. Bah, cette série, écoute, on l'a fait lire à plein de diffuseurs et tout, et l'idée, c'est que je pense que ça a un peu. Le fond me plaît toujours autant, mais l'arche narrative, donc c'est vraiment de la technique, quoi, ouais. Du truc concret, a un peu vieilli.
La façon dont l'histoire est racontée.
Ouais, a un peu vieilli et je suis d'accord avec ça. Donc du coup, c'est un peu. Tu sais, quand quelqu'un te fait un retour et que t'es un peu d'accord avec ça, tu fais ah, faut retourner, faut le remettre sur l'établi, faut retourner le bosser. Donc peut-être que ça évoluera, peut-être que c'est pas le moment. C'est une question de moment. Ça verra le jour, je pense, un jour, sous une autre forme.
Ouais.
Mais là, du coup, c'est un peu en. Quand on te dit non et que t'es d'accord avec la raison pour laquelle on t'a dit non, tu remets pas en cause. Moi, j'aime bien parce qu'au moins, on me donne une réponse. Donc ça me fait toujours avancer, moi.
Parce que. En gros, tu as une idée. Aujourd'hui, là, tu l'as transformée en série. Mais ça pourrait devenir demain, je sais pas, autre chose, quoi, tu vois.
Ça serait forcément de l'audiovisuel parce que c'est vraiment lié de la fiction. Mais ça peut devenir
un
court-métrage. Plus compliqué.
Okay.
Non, c'est vraiment lié à une identité visuelle. Okay. Enfin, l'idée qui est dingue, c'est ça. Mais en vrai, oui, ça évolue. Et tu vois, c'est comme faire un spectacle où tu te dis, j'ai une idée, ça va parler de ça. Puis après, la technique, elle évolue. Tu travailles à ça et du coup, là, je suis vraiment en train de... La pause va être salvatrice parce que je vais pouvoir même reprendre ce projet en disant le Alex de maintenant, qu'il découvre et qu'il va dire « Oh, mais en fait, ça, c'est faible. Ça, c'est machin. » Donc, je sais pas. Peut-être que je mets en pause et je pars sur un autre projet un peu plus... Pareil, hein, qui ressemble pas au Alex du sensiblement viril, au jeune piment énervé, comme tu as dit. Je sais pas. Ça me fait rire. Un jeune piment. Mais à la grosse...
Jeune piment.
Mais à la grosse brutasse que je suis devenu, quoi. Salut. Salut.
Je suis Alex Rémy.
Non, mais ouais. Donc, à voir.
Tu parlais tout à l'heure de succès, de trucs que tu as envie de faire et tout. Donc, effectivement, il y a des projets artistiques, mais il y a aussi l'idée d'aller jouer dans des plus grosses salles. C'est vraiment un truc qui t'intéresse aussi, de te dire, OK, je vais faire une tournée de Zénith. Tu vois, boum!
Pour, en vrai, ouais. Mais alors, dans ce cas-là, moi, je...
Parce que c'est plus du tout le... Enfin, les gens peut-être se rendent pas compte, mais quand tu joues
c'est
dans
le même rapport.
C'est plus du tout le même spectacle.
J'ai fait des, ouais, je suis d'accord. Je suis d'accord que ce spectacle, peut-être qu'il serait pas zénithable, mais, au moins d'en faire un pour déjà dire de l'avoir fait, pour vivre. J'ai fait des premières parties en Zénith. Et c'est vrai que les vannes, c'est pas du tout pareil. Et c'est vrai qu'il y a un côté, c'est, je le dis toujours, mais pour moi, les publics, c'est comme des chevaux. c'est des gros chevaux. Je l'ai dit dans un podcast, je crois. Et en fait, quand t'es devant 12 000 personnes, t'as 12 000 chevaux avec 12 000 rennes. Il faut vraiment, tu sais, pas les fouetter, mais tu sais, lancer le rire, on y va. Et du coup, l'onde de choc est plus longue, ouais. Et tout. Mais tout ça,
parce
c'est.
Parce que la façon dont les rires te reviennent, ouais. C'est pas du tout la même
exactement.
Chose.
Mais tout ça, c'est des premières parties, donc c'est des gens qui n'étaient pas venus me voir moi. Ouais. Donc je sais pas du tout ce que ça rendrait. Ça change vraiment ce référentiel.
Ouais, bien sûr.
Hein. Et du coup, non, le faire et moi, je suis tellement gourmand et généreux en termes, je veux dire, artistiquement, que si je fais un Zénith, c'est pas un Foresti Party Bercy, mais c'est vraiment ce côté célébrer et jouer avec le côté grande salle. Donc oui, c'est sûr que tu vois le défilé de mode du début, il y aura pas trois tenues, il y aura 12 quoi. Il y aura de la vidéo. Enfin, je me dis vraiment, si je fais un truc en Zénith, ça prendra une ampleur. Et du coup, ça c'est fascinant parce que du coup, ça me force à créer. Ouais. Et c'est ça qui m'éclate. Faire un Zénith pour dire j'ai fait un Zénith, en vrai, je m'en fous. Tu vois, mais c'est vraiment que ce soit des contraintes. Mais comme présenter les Césars, comme faire des soirées, des cérémonies, soit je sais pas, faire je sais même pas si ça existe encore, Marrakech du Rire, mais faire des soirées comme ça, des trucs où en fait ça te force à réfléchir, à créer, à t'adapter à ce décor. Mais et c'est ça qui est fascinant dans notre métier, quoi. Ouais.
T'as envie de tout faire, quoi.
Ouais, exactement.
C'est un peu l'objet.
Parce que tout me plaît dans l'idée, quoi.
Bah oui. Puis t'es capable.
Bah maintenant, oui, c'est pareil, faut se le dire, quoi.
Faut se le dire,
on est capable.
Au tout début du podcast, tu parlais de tes spectacles préférés.
Ouais.
C'est quoi tes spectacles préférés?
Mes spectacles préférés, c'est putain, je crois que j'ai oublié le nom. C'est Muriel Robin. Je crois que c'est Tout seul comme une grande. Mais Tout seul comme une grande, elle reprenait des anciens sketchs déjà. C'est le spectacle où il y a la... Tout m'énerve de Muriel Robin.
Tu fais une rêve d'ailleurs à Muriel Robin.
Je fais la soirée jeu à la... Ouais, déjà il y a une soirée jeu. Et c'est totalement une rêve à l'addition de Muriel Robin. Et l'idée, c'était vraiment ça. L'idée, c'était rendre hommage à Muriel Robin avec ce principe de faire parler les gens. Parce que comment tu es en retard et tu viens me parler comme ça? Bah très bien, bah assieds-toi. Tu sais, ces trucs-là, c'est un code qui me fait tellement rire. Et faire vivre plein de gens, mais avec un côté justement 2024 où c'est on s'embrouille plus avec ses amis pour régler une addition, mais on s'embrouille avec ses amis parce qu'on a envie de faire une soirée jeu et que tout le monde n'écoute pas. Et c'était vraiment ça, tout en justement créant d'autres personnages. Et l'idée, c'est pas de prendre les mêmes blagues, hein, mais ouais, c'était assumé vraiment. C'était un hommage à ce sketch-là qui est génial, l'addition qui a été mon premier gros fou rire d'enfant devant la télé, quoi, tu vois.
Incroyable.
Ouais.
Et t'as d'autres rêves?
Et les rêves, là, c'est des spectacles plus récents, les spectacles de Vincent Dedienne, parce que justement, il y a toujours une liberté. Ceux d'Alex Lutz. Alors pourtant, je déteste les chevaux, mais c'est pas le fait qu'il ait un cheval, c'est le fait que justement, d'un coup, il a envie de dire, bah, j'ai envie de mettre ça sur scène. Donc, Laura Felpin, Kian Kojandi, ça, c'est plutôt les spectacles qui m'ont plu dernièrement. Mais les spectacles vraiment fondateurs, ouais, il y a, bah, c'est les sketchs Foresti, Mal Robin, on va pas se mentir. Hein. C'est cette écriture-là. Hein. Ils s'aiment, ils se sont aimés, Palma de la Roque.
Palma, ouais.
Ouais. Ça, c'était l'écriture Robin Palmade. Hein. C'est plutôt ça, ouais.
Ok.
En spectacle. Ouais, je pense que c'est ça. Ouais.
C'est pas mal. Il n'y a pas du tout d'influence américaine.
Non, je ne suis pas du tout... En fait, j'ai essayé. Hein.
J'ai essayé.
Même Nanette, de ouais. Anna Gatsby. J'étais là, ouais, d'accord, ouais, ok, bon, ouais. Oui, enfin, en fait, il y a un côté où pour moi, la rythmique américaine, bon, elle est super, mais elle appartient vraiment à ce milieu-là. Et du coup, tu peux faire, en répétant trois fois le même mot et la bonne rythmique, tu peux faire. Et puis en plus, les Américains prennent des fous rires et des applauses à la moindre vanne, qui fait que moi, ça me traverse pas. Et surtout, moi, ce que j'aime, c'est les spectacles où les gens jouent. Et en Amérique, c'est beaucoup du stand-up.
Ouais, c'est beaucoup de stand-up.
Donc, même si c'est bien vu, même si c'est malin, même si la phrase est bien tournée, je pense qu'il y a un petit peu de la barrière de la langue où je pense que je préfère écouter du français. Et surtout, ça va pas jouer comme j'ai envie, quoi. Ça va raconter hyper bien, mais ça va pas jouer, quoi. Et en fait,
Je comprends.
Moi, ce qui me plaît dans Foresti, même quand elle fait du stand-up, c'est que à un moment, elle va jouer, quoi. Ouais, elle va incarner. Donc, souvent on me dit, ah, t'as vu, machin. Je suis là, ouais, non. Enfin, ça m'a pas. Je te dis, j'ai essayé, mais.
Je comprends. Est-ce que tu as regardé Fatal alors?
Je sais pas. J'en ai trop des choses à regarder.
Ah, ça c'est vrai.
Je pense pas que je vais regarder Fatal.
Est-ce qu'il y a un sujet sur lequel je t'ai pas amené dont t'aurais aimé parler?
Dont j'aurais aimé parler?
Ouais.
On est en retard. Attends, je regarde quand même parce que. Oh! Mais je suis à la bourre de ouf là.
Ah bah d'accord.
Je dois être dans 10 minutes à la salle. Je fais un truc.
Ah bah d'accord.
Non, un sujet. Et bah comment je gère mon temps? Voilà. Ah, je suis à la bourre de ouf.
Bah on y va alors.
Ouais.
Merci Alex.
Merci, je suis désolé de finir comme
bah,
ça.
Non, mais
salut,
au
revoir. Merci. Bye.
C'était ça, c'était super, hein.
Non, merci beaucoup.
C'était chouette.
Ouais. Ouais
c'est parce
non,
qu'on
on
a joué à la Switch avant de démarrer. C'est pour ça. Bisous.
Bisous. Au revoir.
Un grand merci à vous d'avoir écouté jusqu'au bout. Pensez à rejoindre le serveur Discord pour venir commenter avec le reste de ma commu. Je vous trouverai tous les liens dans les notes de cet épisode. Et si mon travail vous plaît, je vous rappelle que vous pouvez m'offrir en échange un peu de sérénité en vous abonnant à mon Patreon ou en m'envoyant de l'argent en vous munissant de votre CB. Vous trouverez tous les liens dans les notes de cet épisode également. Bonne fin de journée et j'espère à très bientôt pour un nouvel épisode de podcast.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend. Winning is an everyday mindset, and we're here to help. I'm Craig Robinson. Join me and Coach John Calipari for Ways to Win. We're kicking off during March Madness. Cal's Kentucky Wildcats are in the hunt. So throughout the tournament, I'm going to call up my friend to ask about his wins, losses, and especially what he's telling his players in the locker room.
You got to win every day.
Find the Ways to Win podcast anywhere you listen.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.